enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous voir. Particulièrement content de vous voir. Voilà, j'avais prévu depuis début de semaine dernière déjà un message que je travaillais, que j'avais l'intention d'amener ce soir. Et puis, en vue de ce qui s'est passé ce week-end, Dieu a vraiment parlé à mon cœur et j'ai changé de message. Donc, je l'ai précipitamment travaillé ce matin pour vous apporter la pensée de Dieu ce soir et en même temps intégrer le témoignage un peu de ce que nous avons vécu ce week-end et confirmer la bonté de Dieu. Amen. J'aimerais que l'on prenne un texte ensemble dans le livre de Ruth. Et le titre de mon message ce soir, c'est Ruth où Dieu est roi. Ruth où Dieu est roi. Lisons ensemble Ruth chapitre 1, versets 1 à 5. C'est un livre que je suis en train d'étudier, de lire particulièrement en ce moment. Et je pense dans les prochains temps emmener quelques messages sur ce livre qui nous apprend beaucoup de qui est Dieu. Et ce soir, je voudrais en particulier aborder ce thème du Dieu qui est roi. Ruth chapitre 1, versets 1 à 5, voilà ce qu'il est dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Dernier verset, verset 5, Machlon et Kijlon moururent aussi tous les deux, et Naomi restera privée de ses deux fils et de son mari. Jusqu'ici. Pour situer un peu le livre de Ruth, si vous connaissez un peu la parole de Dieu et la manière dont elle est constituée, le livre qui se trouve avant est le livre des juges. Et quand vous prenez le livre avant le livre des juges, il s'agit du livre de Josué. Josué en particulier est un livre qui nous parle d'un homme qui aimait le Seigneur plus que tout et qui aimait accomplir la volonté du Seigneur. C'est d'ailleurs lui que Dieu a utilisé, lui le successeur de Moïse, qui a beaucoup appris de Moïse d'ailleurs. Qui a eu le privilège de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise et de voir plusieurs villes être conquises, non pas au travers ou grâce à leur force ou aux forces du peuple d'Israël, mais parce que Dieu était à ce moment-là le roi du peuple d'Israël. Depuis Abraham, depuis Moïse et à tous leurs descendants, Dieu avait promis à ceux qui obéiraient à l'éternel roi, de leur permettre de rentrer dans un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Voyez ce qu'il est dit dans Lévitique chapitre 26, versets 3 à 5. Si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison. La terre donnera ses productions et les arbres des campagnes donneront leurs fruits. Vous mangerez votre pain à satiété. Josué faisait partie de ces hommes qui aimaient à marcher selon la volonté de ce Dieu qui était le roi de sa vie. Et puis voilà que vient le livre des juges. Alors pour ceux qui lisent le livre des juges, il me semble que ce livre est un peu, comment dirais-je, chaotique. Il est un livre dans lequel le peuple d'Israël marchait. Alors je vais utiliser une expression qui n'existe pas, Mais le peuple d'Israël marchait à la Silver Star. Pour ceux qui connaissent Europa Park, les jeunes, hein, les jeunes doivent connaître. Silver Star, c'est cet instrument de torture qui consiste à monter dans des petits trains qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, et puis qui, arrivés tout en haut, redescendent à toute vitesse. Moi, j'appelle ça des instruments de torture, hein. Et il me semble, dans le livre des Juges, et bien que le peuple d'Israël marchait comme s'il se trouvait sur cet appareil-là, une fois ils montaient en direction de Dieu, ils obéissaient à Dieu, et voici qu'aussitôt qu'ils étaient montés, ils redescendaient. Jusqu'à ce que les descendants de Josué meurent, le peuple d'Israël connaissait et aimait faire la volonté de Dieu. Mais voilà que les descendants de Josué meurent, et que le peuple d'Israël faisait ce qui lui plaisait. Alors il redescendait dans la vallée, dans l'ombre, dans la difficulté. Et puis voilà que vint un roi, Othniel, qui lui rétablissait la volonté de Dieu. Et il y eut 40 ans de repos. Et puis voilà que Othniel meurt, et le peuple d'Israël désobéit à Dieu, il redescend. Après Othniel, voilà que vient Éhud, qui de nouveau obéit à Dieu. 80 années de repos. Mais voilà qu'ils arrivent après 80 années de repos. Imaginez comme ça monte, hein. Voilà qu'ils arrivent de nouveau, lorsque cet homme meurt, à désobéir à Dieu. Parce que, eh bien, Dieu n'était plus à ce moment-là. Alors le roi d'Israël. Et puis voilà que vint Déborah, la prophétesse, avec Barak. Eux-mêmes aimaient obéir à Dieu. Eux-mêmes prophétisaient, parlaient selon le cœur de Dieu. Et à nouveau, le peuple d'Israël était en repos. Mais voilà qu'il meurt. Et à nouveau, Israël descendait. Et puis il y eut Gédéon et d'autres juges encore. Il y a une phrase qui, me semble-t-il, résume très bien le comportement du peuple d'Israël dans le livre des juges. Et cette phrase est la conclusion de ce livre. Il nous est dit dans le livre des Juges, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je souhaite de tout mon cœur que la conclusion de notre vie ne soit pas la même que la conclusion qui est donnée dans le livre des juges. Autrement dit, notre vie n'a pas de roi, nous faisons ce qui nous semble bon. Élimélec veut dire « Dieu est roi ». Et je crois que ce qui est important ce soir, c'est que nous puissions tous et toutes réaliser que nous avons besoin que Dieu soit roi dans notre vie. Nous ne devons pas permettre uniquement que Jésus soit le sauveur de nos vies. Oui, c'est une bonne chose que Jésus soit venu pour nous sauver. Et peut-être y en a-t-il ce soir qui ne sont pas certains de leur salut. Laissez alors Jésus venir afin qu'il vous sauve et qu'il touche votre cœur. Il vous aime tellement. Mais ce qui est important, c'est que Dieu devienne le roi et le seigneur de notre vie. Lorsqu'on dit de Dieu qu'il est notre roi, alors on le laisse régner dans notre vie. Alors ce n'est plus notre volonté qui s'accomplit, mais c'est la volonté de celui qui a établi ses règles dans sa parole. Et ses règles sont bonnes pour chacun d'entre nous. Et si nous acceptons qu'il soit le roi, alors nous acceptons non pas de faire ce que nous désirons, nous acceptons de faire non pas comme le peuple d'Israël du temps des juges, comme nous le sentons, mais nous acceptons d'accomplir pleinement la volonté de celui que nous laissons être le roi de notre vie. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il est plus d'une quarantaine de fois cité que Jésus est le Sauveur. Mais il est cité plus de 400 fois qu'il est le Seigneur. Et une centaine de fois dans le livre des Actes. Laissons-nous Jésus être le sauveur de notre vie et ensuite lui permettre de devenir celui qui a le droit d'être notre roi? Ou est-il juste notre sauveur, celui qui nous a sauvés? Élimélec, Dieu est roi. Naomi, avec laquelle il avait décidé de faire sa vie, il était marié avec elle. Naomi veut dire ma gracieuse. C'est un beau mariage que celui qui consiste à dire, bien, d'un côté Dieu est roi et de l'autre côté il y a ma gracieuse. À la fois, eh bien, vivre comme si Dieu était le roi, capable de conduire notre vie, mais à la fois de dire également, bien, lorsqu'il nous arrive de chuter, de tomber, de fauter, dire, mais Dieu est celui qui fait grâce. Et dans la mesure où, comme le peuple d'Israël dans le livre des Juges, nous savons nous repentir, reconnaître nos erreurs, il est celui qui nous relève et qui nous aide à marcher avec lui. Lorsque nous lisons le début du livre de Ruth, il est marqué là, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Il me semble que l'introduction du livre de Ruth est la conclusion, ou plutôt la conséquence de la conclusion du livre des juges. Parce que le peuple de Dieu faisait ce qui lui semblait bon et n'avait pas de roi, n'obéissait à aucune règle, alors voici ce qu'il arrive en introduction du livre de Ruth dans le pays, il y eut une famine. Et certaines famines dans nos vies, certaines épreuves, certaines difficultés que nous pouvons vivre, je ne dis pas toutes, je dis certaines, peuvent être la conséquence d'hommes et de femmes, de peuples, de pays, de nations qui évincent Dieu de leur vie et qui finalement font ce qui leur semble bon. Font à leur gré ce qui leur semble bon. Et alors Dieu produit des famines dans la vie de ceux et celles qui ont décidé de ne pas aller dans le pays où coule le lait et le miel et qui est réservé à ceux qui décident d'obéir à l'Éternel. Dans quel pays voulons-nous aller ? Voulons-nous aller dans ce pays où coule le lait et le miel ? Où se trouve la bénédiction de l'Éternel pour ceux qui lui obéissent ? Où voulons-nous faire, comme dans le livre des juges, ce qui nous semble bon ? Et alors rencontrer dans nos vies des famines, des épreuves ? Voyez-vous, je pense que lorsque Dieu envoie des épreuves ou des famines qui nous reprennent et nous permettent de réaliser que peut-être pour un temps, nous nous sommes éloignés de Dieu. Si Dieu fait cela, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu fait cela, ce n'est pas forcément uniquement pour envoyer une punition sur nos vies, mais c'est parce qu'il nous aime et qu'au travers de l'épreuve ou de la famine dans notre vie, il veut nous ramener à la raison. La volonté de Dieu, c'est de nous permettre de rester en relation avec lui. Dieu ne pouvant pas côtoyer le péché, si le péché nous éloigne de lui, alors il produit des famines pour nous permettre de réaliser ce que nous sommes et de revenir à lui. Et ça, Dieu le fait parce qu'il nous aime. Alors, pourquoi puis-je dire ce soir que probablement Élimélec, plutôt que d'accomplir la volonté de Dieu, a accompli sa volonté à lui, a fait ce qui lui semblait bon ? D'abord, j'ai le sentiment, lorsque je vois la décision qu'a pris Élimélec d'aller à Moab à cause de la famine, j'ai l'impression que Élimélec s'est laissé prendre par la mentalité du temps présent. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Voyez-vous, on peut très rapidement prendre la mentalité du temps présent, du lieu dans lequel on se trouve. Moi, je sais que, à force de travailler dans les quartiers, avec toutes sortes de mots très sympathiques qui circulent, il m'arrive de me surprendre à utiliser les mêmes mots pour parler aux enfants. Alors je ne parle pas des mots du style « Wesh, comment tu vas ?» Ou alors quand ils disent « Oui » dans les quartiers, ils font « comme ça ». Moi je trouve que c'est plus court de faire. Alors soyez pas impressionnés si de temps en temps, quand vous me demandez comment ça va, je fais c'est pas un tic, C'est que simplement je me fais tout à tous. Et j'oublie de temps en temps que je suis pas dans les quartiers, Mais il y a d'autres mots moins sympathiques. Et vous savez, à force de côtoyer, des enfants qui vivent toute la journée dans de tels milieux, vous vous surprenez à par endroit devenir comme cela. Et peut-être en allant plus loin à se dire, ben, Seigneur, aide-moi au contact de ces secteurs difficiles, de ne pas, eh bien, faire comme beaucoup font ce qui me semble bon. Tant de gens vivent des famines et des épreuves et ont besoin de venir à celui qui veut être le sauveur et le roi de leur vie. Alors, quelques arguments ou quelques circonstances atténuantes que l'on peut donner à Élimélec qui est parti au Moab. D'abord, Moab, si Élimélec et Naomi sont un couple qui était uni, qui voulait dire « Dieu est roi et ma gracieuse », il n'en est pas de même avec le peuple de Moab, puisque le peuple de Moab est issu d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Les Moabites étaient des habitants qui rejetaient Dieu. Il y avait toutes sortes de sacrifices humains, toutes sortes d'idolâtries. Et je ne pense pas que la volonté de Dieu ait été qu'Élimélec et sa famille aillent en direction d'un pays qui rejetait Dieu. Pourquoi Élimélec l'a-t-il fait ? Quelles ont été ces circonstances atténuantes ? Je n'ai pas dit excuses, j'ai dit circonstances atténuantes. D'abord, il était chef de famille. Et être chef de famille, c'est être, je dirais, responsable de sa famille. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chefs de famille sont démissionnaires quant à leur responsabilité. Et Élimélec, lui, voyait sa famille commencer à avoir faim face à la famine qui se trouvait là. Alors qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a regardé sa famille. Peut-être ses fils étaient en train de maigrir. Peut-être que sa femme devenait maigre et maigre et maigre. Et il s'est dit, ben, pour qu'elle reprenne du poids, il va falloir que j'aille à Moab, hein, chez les copains à côté. Et puis, il y avait également la proximité ou le provisoire. Moab n'était pas loin. Élimélec aurait pu se dire, bien finalement, moi je vais à Moab, mais Bethléem n'est pas loin, donc s'il y a un problème, je suis vite à Bethléem. Lorsque vous lisez l'histoire, vous voyez qu'Élimélec est mort chez les Moabites. Ses fils sont morts là-bas. Il n'est jamais revenu à Bethléem. Peut-être nous-mêmes, avons-nous une proximité avec le péché ? Et nous disons-nous, lorsque nous péchons, bien, c'est si peu de choses. Et puis c'est tellement provisoire. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une proximité avec le péché quant à ce qu'on peut regarder sur Internet, tellement facilement. Et puis ça a l'air tellement innocent. Et puis on dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est juste provisoire. Ça va durer juste un peu de temps. Sommes-nous maîtres de notre temps et de notre vie pour nous permettre de dire, lorsque nous flirtons avec le péché, que nous pouvons contrôler ce que nous faisons. Dieu est-il le roi de notre vie ? Et puis il y avait évidemment l'urgence de la situation. Élimélec s'est laissé impressionner par les circonstances, par la situation du moment. Mais voici ce qu'il est dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. » Alors j'aimerais amener ce soir trois clés qui, lorsque nous vivons des famines, des épreuves, des difficultés, nous permettront peut-être d'analyser notre situation, non pas précipitamment comme l'a sans doute fait Élimélec, mais d'analyser notre situation en tenant compte de ces points-là et en ne nous précipitant pas à prendre des décisions pour fuir peut-être la famine, l'épreuve, la difficulté que Dieu met dans notre vie, mais qui, si nous l'affrontons, si nous savons l'affronter, eh bien, deviendra pour nous une bénédiction. Le premier point, partir en Moab, partir dans un pays étranger, partir dans un lieu de malédiction, c'est refuser d'écouter Dieu qui parle par la famine. Dans différents endroits de la parole de Dieu, Dieu a utilisé la famine pour parler. Mais lorsque la famine était là, Dieu veillait toujours sur ceux qui lui étaient fidèles. Toujours. Lorsque vous lisez le deuxième livre de Samuel, il est parlé là d'un texte où David est confronté au problème de la famine. Depuis 3 ans, il y avait la famine. Et voilà que David, contrairement à Élimélec, plutôt que de fuir le pays, a cherché la présence de Dieu, a cherché la face de Dieu. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 14, si vous voulez le lire. Et Dieu lui révèle pourquoi il a permis un tel châtiment. David règle le problème et il est dit qu'après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. N'est-il pas beau d'être apaisé avec Dieu ? N'est-il pas beau de recevoir de la part de Dieu cette paix qui vient de lui ? N'est-il pas vrai que cette paix, nous la recevons lorsque nous sommes au diapason avec sa parole ? Dieu était apaisé avec son peuple dans la mesure où David, parce qu'il a cherché la face de Dieu, lorsque la difficulté était là, a pu comprendre de la part de Dieu pourquoi le problème était là. Et alors a pu le régler et retrouver, lui et son peuple, la paix qui vient de Dieu. Ne refusons pas d'écouter Dieu qui parle au travers de nos épreuves. Voyez-vous, si vous pensez pouvoir faire un bras de fer avec Dieu et pouvoir lui résister en fuyant toujours et constamment face à l'épreuve que vous vivez, Dieu sera toujours le vainqueur. Toujours. Deuxième clé, partir en Moab, c'est se priver du secours de celui qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Je répète, partir à Moab, c'est se priver du secours de celui qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Dans le psaume, chapitre 33, versets 18 à 19, il est dit ceci. « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. » Dans le livre des Rois, Élie, prophète de l'Éternel, avait déclaré la sécheresse, la famine dans le pays dans lequel il se trouvait, parce que ce pays désobéissait à Dieu. Mais Dieu a veillé sur son serviteur Élie, il l'a envoyé en direction d'un torrent, le torrent Kérit. Et Dieu, de manière aérienne, en utilisant un simple corbeau, l'a nourri de pain et de viande matin et soir. Pensez-vous que Dieu soit différent aujourd'hui ? Pensez-vous que nous ne puissions pas faire confiance à celui qui a la capacité, comme il a nourri Élie, de nous nourrir nous-mêmes ? Dieu a cette capacité dans la mesure où même dans l'épreuve, nous le laissons être le roi de notre vie. Amen. Le prophète Jérémie a vécu une vie difficile. Et alors qu'il se trouvait en prison, il y eut dans ce pays la famine. Et le prophète Jérémie avait un ennemi, le roi Sédécias. Mais alors que la famine régnait dans ce pays, l'ennemi de Jérémie a nourri Jérémie en prison. Il n'a pas eu faim, Dieu l'a nourri, Dieu a pris soin de lui et il a utilisé son ennemi pour prendre soin de lui. Dieu est à la fois suffisamment puissant pour utiliser des situations que nous ne saisissons pas parce que nous sommes limités dans ce que nous sommes capables de comprendre de Dieu. Mais Dieu est également puissant pour utiliser même nos propres ennemis pour devenir une bénédiction pour nous. Amen. Cherchons la face de Dieu. Psaume chapitre 37, versets 18 et 19, il est dit, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. » Et plus loin, « Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils sont rassasiés. » troisième et dernier point, partir en Moab, c'est se laisser impressionner par une situation difficile, en oubliant que le Dieu souverain contrôle toutes les circonstances dans la vie de ses enfants. Dieu est souverain. Si Dieu permet une difficulté dans notre vie, il a la solution pour nous tirer de cette difficulté, parce qu'il est souverain. Et je voudrais peut-être, au travers de cet exemple-là, eh bien prendre le témoignage de ce que nous avons vécu ce week-end. Et je vous ai préparé quelques photos. Alors si tu veux bien les mettre en route pour vous expliquer un peu ce que nous avons vécu. Mais combien Dieu a été souverain. Combien il a utilisé la difficulté vécue pour nous aider et prendre soin de nous. Alors ça c'est le départ du week-end. Tout allait encore bien. Là, les choses se sont un peu compliquées, hein. Alors que le bus montait, il commençait à fumer. Nous avons heureusement, les animateurs ont vu ce qui arrivait, ont dit au chauffeur de s'arrêter précipitamment et le bus a pu s'arrêter à temps. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter l'image, là, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. Tu peux l'arrêter? Je voudrais juste l'arrêter pour dire que cette petite fille s'appelle Serena, c'est la fille de Sandra, une sœur qui vient et qui était avec elle au week-end. C'est une petite fille qui, suite à ce qui est arrivé avec le bus, a été quelque peu choquée. Et je vous la montre en début d'image parce que je voudrais vous en reparler à la fin. Tu peux continuer. Voilà le bus qui a d'ailleurs brûlé très rapidement, hein. En une demi-heure, le bus était dans cet état-là. Et je bénis le Seigneur de ce que tous les enfants ont pu sortir. Je bénis Dieu pour tous les animateurs qui étaient là, qui ont pu précipitamment les faire sortir, s'éloigner du bus, alors qu'il en était encore temps. Et simplement, certains enfants ont inhalé un peu de fumée. Tu peux continuer si tu veux bien. Voilà, ça vous montre un peu l'état de ce cher bus qui n'existe plus, ou que sous forme de carcasse. Là auraient pu rester assis des enfants. Et je bénis le Seigneur de ce que ça n'a pas été le cas. Alors je voudrais vous montrer quelques autres images plus réjouissantes du week-end, hein. Les enfants ont bien sûr décidé de rester, nous leur avons demandé. Nous avons téléphoné aux parents, Jérémy est allé les voir, il a récupéré des affaires, il leur a remonté. Et à l'unanimité, les parents ont décidé que leurs enfants doivent rester au week-end. Donc nous avons continué, voilà un moment toujours joyeux. Alors est-ce qu'on peut s'arrêter aussi sur cette image-là? Je l'ai mis parce que le centre dans lequel nous étions s'appelait le centre Sainte-Geneviève. Et lorsque le week-end s'est terminé, nous avons fait l'état des lieux avec le propriétaire de ce centre. Et quand nous avons monté les escaliers, en faisant l'état des lieux, le propriétaire nous disait « Mais sûrement, par rapport à ce que vous avez vécu, il doit y avoir quelque chose au-dessus de vous. Sûrement. » Alors il me regarde et il me dit ben, vous savez, le centre, il s'appelle Sainte-Geneviève, hein. Alors c'est probablement elle qui vous a aidé. Alors je me suis quand même rappelé que ce même centre avait brûlé il y a quelques années de cela, alors que nous voulions faire une colo là-bas. Alors, je pense pas que c'est Sainte-Geneviève qui l'ait empêché de brûler, hein. Mais en tout cas, nous avons pu témoigner et lui dire oui, nous avons un Dieu fidèle. Il nous a dit, voyez-vous, quand vous êtes venus au week-end, ils annonçaient de la neige, de la pluie et des tempêtes de neige. Alors quand nous sommes arrivés vendredi soir, nous avons essuyé une tempête de neige. Mais à partir du samedi, après-midi, il faisait un temps magnifique. Et cet homme nous a dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un au-dessus de vous. Tu peux continuer. Alors nous avons fait une histoire avec Astérix et Obélix. Voilà, ça c'est César et Brutus. Voilà Obélix et sa belle Falbada. Je vous laisse deviner qui est derrière. Puis nous avons fait une histoire de pirates. C'était sympa, ils ont l'air sympas quand même, hein, nos pirates. Voilà, je reconnais qu'ils étaient... Alors, on peut arrêter cette image. Voilà, ça c'est simplement la maman et la petite Serena après... après le week-end ou après l'incident qui est arrivé, la petite fille Serena dira à la maman qui est venue me voir dimanche matin, la petite fille, quand elle s'est levée, elle a regardé sa maman et elle a dit à peu près en ces termes, « Maman, qu'est-ce que Dieu a été fidèle avec nous ?» 5 ans et demi. Et je crois réellement qu'elle a été inspirée par Dieu quand elle a dit cela. Hein. Dieu a été fidèle. Amen. On peut continuer. Voilà l'image de quelques enfants. Voilà, au culte du matin, nous avions invité un orateur. Voilà un temps de prière avec eux. Voilà les jeunes. D'autres jeunes, la qualité n'est peut-être pas excellente, mais vous pouvez voir un peu qu'ils n'ont pas forcément été très, très affectés par ce qui leur est arrivé. Bon, je pense en tout cas que dans les quartiers, ils ont plus l'habitude que nous de voir ce genre de choses. Hein. Donc ça les affecte peut-être un peu moins. Voilà, nous avions 96 enfants. Alors on peut arrêter sur cette image ou sur la prochaine. Hein. Non, donc ça c'est encore une... Voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Donc évidemment, vous comprenez que très rapidement, les radios, les médias nous ont contactés. Nous avions des radios qui le dimanche matin nous faisaient passer en direct à la radio en nous posant des questions. Puis nous avons évidemment profité du direct pour témoigner. Finalement, nous nous sommes dit, si c'est du direct... Ils peuvent pas couper nos paroles. Alors évidemment, à la fin après un questionnaire très précis, nous nous sommes empressés de dire, entre autres, que Dieu a été pour nous le Dieu du miracle. Et probablement, c'est peut-être ce qui les a inspirés pour écrire leur article. Hein. Mais cela a également été un témoignage. Voilà, tu peux... On fait un bricolage avec les enfants... Tu peux arrêter cette image également. Hier matin, dans le journal, lorsque les journalistes ont écrit la fin de l'article, c'est une femme des DNA qui m'a appelé dimanche soir. Et elle me demandait de raconter la journée de dimanche et comment s'était passé l'après-accident. Et je lui disais justement le témoignage de Serena qui disait à sa maman le matin en se levant, « Qu'est-ce que Dieu a été bon et fidèle avec nous ?» Et hier matin, je lisais l'article des DNA qui reproduisait ce qu'avait dit la petite Serena, en disant qu'une petite fille s'était levée le matin et avait dit que c'était grâce à la fidélité de Dieu que ses enfants s'en étaient sortis. Amen. Encore un témoignage qui nous a permis de proclamer et de parler de la fidélité de Dieu. Voilà, Marisa, notre petit Michael national. Voilà, ça c'était le bricolage, quelques photos d'enfants. Voilà, je pense qu'il est important également que vous puissiez voir ce travail qui est fait. Vous qui priez pour nous, vous êtes pleinement participants à cette œuvre. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais, par rapport à ce qu'on a vu, simplement reciter ce dernier point, ou cette dernière clé face aux épreuves que nous pouvons vivre. Partir en Moab, c'est se laisser... impressionné par une situation difficile, en oubliant que le Dieu souverain contrôle toutes les circonstances dans la vie de ses enfants. Amen. Croyez-vous que Dieu a la capacité de permettre que les circonstances soient changées et que ce qui nous paraît être une difficulté, une épreuve, voire être quelque chose de mal qui se produit, Dieu a la capacité de changer le mal, l'épreuve, la difficulté pour glorifier son nom. Amen. Faut-il fuir l'épreuve? Lorsque nous avons vécu cela, la première question que je me suis posée, c'est faut-il annuler le week-end? Faut-il renvoyer les enfants chez eux? Mais quand finalement j'ai vu le résultat de l'œuvre de Dieu dans le cœur de ses enfants, j'ai dit Seigneur merci, parce que tu parles de toi, au travers du miracle que tu as accompli auprès de ses enfants. Et le témoignage le plus beau qu'on a pu donner, c'est de pouvoir dire à chacun de ses enfants, si vous êtes là aujourd'hui, C'est parce que Dieu a été pour vous le Dieu du miracle. Et peut-être un jour s'en rappelleront-ils. Peut-être un jour dans l'épreuve se rappelleront-ils qu'ils ont un Dieu qui a la capacité de les sortir de l'épreuve. Et au travers de cela, de leur permettre de s'approcher de lui afin qu'ils le connaissent davantage et qu'ils puissent l'aimer alors de tout leur cœur. Amen. Voyez-vous, je dirais pour terminer que nous avons peut-être été un peu durs avec Élimélec ce soir par rapport à sa réaction. Mais j'aimerais dire de moi-même qu'il m'arrive d'être Élimélec, qu'il m'arrive de ne pas entendre la voix de Dieu, qu'il m'arrive dans ma propre famille d'être un Élimélec vis-à-vis de mon épouse, face à certaines de mes réactions. Vis-à-vis de mes enfants, face à certaines de mes réactions, peut-être m'arrive-t-il d'être un Élimélec et oui, cela m'arrive, de ne pas accomplir ce que Dieu voudrait, mais de faire ce qui me semble bon. Je confesse devant vous qu'il m'arrive de marcher par mes émotions, mes sentiments, plutôt que d'écouter Dieu et de le laisser accomplir pleinement son œuvre. Et je serais moi-même bien mal placé de prendre une pierre et de lapider Élimélec avec cette pierre. Finalement, Élimélec parle de chacun d'entre nous. Le livre des juges parle de chacun d'entre nous. Et il arrive, même à Josué, qui était un homme de Dieu, que Dieu a utilisé, eh bien de ne pas savoir écouter la voix de Dieu. Lorsque Josué a combattu contre la ville de Naïn, Il a perdu des hommes parce qu'il n'a pas su se placer dans la présence de Dieu. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, il est dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Après cela, dit Dieu à David, qui a cherché la face de Dieu, Dieu fut apaisé envers son peuple. Pouvez-vous dire ce soir que Dieu est apaisé envers vous ? Dieu est-il réellement le roi de votre vie? Prenez-vous des décisions en consultant l'Éternel et en appliquant ce qu'il vous demande de faire? Au travers de ce week-end, Dieu m'a montré un endroit où il m'a semblé être comme Élimélec. Un endroit dans lequel Dieu m'a dit qu'il fallait là encore que je soit transformé, changé par lui. Je vous livre mon cœur ce soir. Aujourd'hui, on rigole de cette situation, mais j'aurais très bien pu en pleurer aujourd'hui. Et je ne veux d'aucune manière glorifier aucun d'entre nous face à cette situation, parce qu'il est lui seul digne d'être glorifié. Et lui seul, je peux le dire, a été fidèle. Et je bénis Dieu de ce que, eh bien, c'est sa fidélité qui nous permet de voir Dieu changer des situations comme celles que nous avons vécues. Amen. Dieu est-il celui qui met la paix dans votre cœur? Je terminerai par cette histoire que vous avez sûrement déjà entendue. C'est un professeur qui demandait aux enfants de dessiner ce que représente pour eux la paix. Voilà qu'un premier enfant dessine sur sa feuille une prairie paisible avec de belles fleurs et des vaches qui étaient en train de brouter dans cette prairie. Et le professeur, en se penchant sur son dessin, de lui dire « Oui, c'est très bien. Quand on regarde ton dessin, il a l'air tellement paisible. » Et puis, voilà qu'il se penche sur un autre dessin. Un enfant qui était en train de dessiner un voilier sur une mer paisible. Et le professeur de lui dire « Oui, Il me semble que ton dessin représente la paix. » Et voilà qu'un autre enfant était en train de dessiner sur sa feuille une tempête, la pluie qui tombait, le tonnerre qui éclatait. Et au milieu de cette tempête, un arbre dans lequel se trouvait creusé un trou, dans lequel se trouvait un couple d'oiseaux qui étaient tranquillement en train de dormir. Et le professeur de lui dire, mais comment se fait-il que tu as fait un dessin qui me semble être, eh bien, l'opposé de ce que peut être la paix? Et l'enfant de le regarder en lui disant, bien, voyez-vous, moi, ce qui me semble être la vraie paix, c'est lorsque la tempête est là, lorsque les difficultés sont là, avoir comme ces deux oiseaux la capacité de dormir tranquillement et d'être en paix. Amen. Voulons-nous de cette paix? Voulons-nous la recevoir? Alors laissons Dieu être le roi de notre vie. Laissons-le contrôler les circonstances de notre vie. Ne fuyons pas constamment à Moab. Ne fuyons pas constamment dans des lieux où il ne semble que la vie sera meilleure. Mais laissons l'épreuve façonner notre vie et nous permettre de grandir. Permettre à Dieu de nous montrer par endroits comment nous sommes encore, afin que lui-même, nous ayant montré cela, nous permette de changer. Et lorsque nous changeons et progressons à l'image de Dieu, alors nous nous approchons de lui. Et Dieu veut tellement, tellement, tellement que nous nous approchions de lui. Amen. Pouvons-nous fermer les yeux un instant? Bernard, s'il te plaît, peux-tu venir au piano? Je voudrais ce soir, très courtement, voyez-vous, j'aurais envie, le premier, de me lever ce soir. Je vais faire un appel pour moi en premier. Mais si quelques-uns peut-être également sont concernés ce soir, peut-être qu'il te semble que tu fais partie de ces personnages qui se trouvent dans le livre de des juges. Une fois tu es en haut, tout va bien, tu loues le Seigneur. Et puis voilà que tu redescends aussi vite et ta vie ressemble à ce parcours chaotique. Une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Une fois tout va bien, une fois tu retombes. Et tu vis des épreuves dans ta vie. Oh, qui se transforment en bénédictions lorsque tu dis oui, mais qui très vite redeviennent des épreuves lorsque tu dis non. Peut-être que la conclusion que tu dois en tirer ce soir, c'est oui, je suis comme ceux du livre des juges. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me semble bon. Et je n'ai là jamais réellement laissé Dieu être le roi de ma vie. Peut-être que tu es de ceux qui, comme Élimélèque, bien que repose sur ta vie ce nom de Dieu est roi, tu viens à l'église, tu lèves les mains au ciel, tu loues le Seigneur, on a l'impression que Dieu est le roi de ta vie. Mais quand tu arrives chez toi à la maison, il y a tellement de domaines qui montrent que Dieu n'est pas réellement le roi. Tellement de domaines. Peut-être lèves-tu les mains au ciel, mais en même temps tu constates, ma vie est tellement loin d'être celle qui ressemble à ceux qui laissent Dieu être réellement le roi de leur vie. Je voudrais demander aux personnes qui disent « Moi, j'ai tellement besoin que Dieu prenne le contrôle de ma vie, le contrôle de ma situation. » Peut-être es-tu là ce soir et tu es rebelle face à une épreuve que tu vis. Rebelle au point que peut-être tu t'es sauvé en direction du pays de Moab. Éloigné de Dieu plus encore que tu ne l'étais avant que ne vienne l'épreuve. Laisse Dieu te parler ce soir. Laisse Dieu au travers de l'épreuve, te parler. Règle la situation. Et reviens à celui qui veut être le roi de ta vie. À celui qui veut te faire grâce. Te relever et te montrer qu'il est tellement, tellement, tellement agréable. Tellement merveilleux de laisser Dieu contrôler notre vie. Je l'ai tellement constaté durant ce week-end. Il a été tellement merveilleux. Il a su contrôler notre vie. Et nous ne pouvons que le louer parce qu'il a été le roi. Peut-être es-tu toi dans cette situation. Je voudrais demander à ceux qui veulent dire, moi je décide que Dieu soit le roi de ma vie. Qu'il règne en roi, non pas seulement d'apparence, mais au plus profond de mon être. Levez-vous simplement là où vous êtes, à votre place. Et je voudrais prier pour vous. Peut-être y a-t-il des personnes qui sont là ce soir. Et vous vous dites, moi, il n'a jamais été le roi de ma vie. Finalement, si ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir à Dieu parce que je ne l'ai jamais laissé être le roi de ma vie. Ce soir, vous voulez dire, Seigneur, deviens le roi. Deviens. Fais grâce au travers de la personne de Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes désobéissances. Pardonne mon cheminement sur la terre de Moab. Et aide-moi à revenir sur la terre de Bethléem, là où coule le lait et le miel. Là où vient la bénédiction de Dieu. Levez-vous à votre place. Je voudrais laisser ce merveilleux roi venir vous visiter par son esprit et vous donner sa paix, comme il l'a fait pour David et son peuple, lorsqu'ils se sont humiliés devant l'Éternel, lorsqu'ils ont décidé de régler leur situation. Seigneur, merci. Merci parce que tu vois combien nous avons tendance à être des Élimélec, faisant ce qui nous semble être bon, marchant par nos sentiments, nos émotions, pensant et trouvant que finalement ce que nous avons fait est bon, mais réalisant que quand nous ouvrons ta parole, nous ne voyons et nous ne trouvons pas que ce que nous avons fait est juste. Père, tu vois tous ceux et celles qui se sont levés devant toi. Tu vois tous ceux et celles qui veulent dire, ô Dieu, sois le roi de ma vie, contrôle-la, dirige-la et manifeste-toi dans ma vie. Dites-le pendant un instant dans votre cœur. Dites-le. Tout à l'heure, je me suis placé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je voudrais tellement que chaque instant de ma vie, tu m'aides à m'approcher de toi. Et dusses-tu utiliser l'épreuve pour que je m'approche de toi? Alors oui pour l'épreuve, oui pour la famine, oui à condition que cela me rapproche de toi, à condition que cela m'aide à me tenir tout près de toi. Dites dans votre cœur, Seigneur, Seigneur, deviens le roi de ma vie. Deviens le roi sur telle situation. Deviens le roi sur telle difficulté. Il y a une personne qui est là. Il t'arrive, lorsque tu veux oublier le passé difficile que tu as vécu, de prendre de l'alcool et d'exagérer. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est de temps à autre pour oublier. Tu te réfugies dans l'alcool. Tu es là dans l'église, tu lèves les mains au ciel. Mais quand les souvenirs des difficultés que tu as vécues viennent à toi, il te semble que celles-ci sont tellement insurmontables que pour t'en débarrasser, tu bois et tu bois. Et ensuite, tu es tellement plus malheureux encore. Dis ce soir simplement dans ton cœur, Dieu devient le roi de cette situation dans ma vie. Dieu devient le roi de cette situation dans ma vie. Il y a une jeune femme qui est là. Tu Tu prends régulièrement des médicaments. Tu as une longue vie dans la drogue, dans les médicaments, dans l'alcool, dans toutes sortes de produits. Et Dieu te dit, si tu es dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est parce que si souvent, alors que je voulais agir dans ta vie, tu as fait comme le peuple d'Israël dans le temps des juges, tu as fait ce qui te semblait être bon. J'ai essayé si souvent de te tendre la main, de te sortir de ces situations, mais tu as tellement voulu faire ce qui te semblait être bon plutôt que de m'obéir. Ce soir, Dieu te parle, il te dit, je te juge pas, je t'aime tellement. Et ce que tu vis aujourd'hui est, oui, le résultat de ton péché, mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est également l'épreuve et la difficulté, la famine, la disette que j'ai mis dans ta vie afin que tu l'utilises pour me chercher, pour te repentir, pour t'approcher de moi et pour te laisser aimer par moi, te dit le Seigneur. Fais cela et tu vivras. Non seulement tu vivras, mais je t'emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Et toi et tes enfants, vous serez bénis de ma part. Écoute-moi. Laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi devenir le roi de ta vie. Et tu verras combien progressivement celle-ci changera. Et alors toi et tes enfants, vous deviendrez une bénédiction. Te dit le Seigneur qui t'aime. Seigneur, merci pour ta merveilleuse présence. Nous t'aimons. Et nous nous réjouissons parce que toi qui es présent, nous voulons ensemble te dire, sois le roi de notre vie. Sois le roi. Sois le roi, décide. Décide ce que tu veux faire avec notre vie. Décide ce que tu veux faire des épreuves que nous vivons. Décide ce que tu veux faire avec nous des difficultés que nous rencontrons. Et permets, de la même manière que le miracle de Dieu s'est manifesté pour ses enfants et les adultes qui étaient avec eux, tu as manifesté ta gloire, que nous puissions voir dans nos propres vies le miracle de l'Éternel. Seigneur, nous te remercions de tout cœur et nous nous réjouissons de savoir que tu ne délaisses ni n'abandonnes aucun de ceux qui te cherchent. Laissons ce soir encore Dieu agir dans nos vies. J'ai vraiment le sentiment que ce soir Dieu est tellement présent. Et qu'il veut tellement régler des situations dans les vies, dans les cœurs de tellement d'entre vous. Et je voudrais ce soir que, eh bien, nous puissions prier pour les malades, mais que les malades puissent s'approcher avec ce désir de dire d'abord à l'Éternel, sois le roi de ma vie. Oh, non pas que je dise ce soir que chaque maladie est due à des désobéissances, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce soir, venons avec cet état d'esprit, Seigneur, face à ma maladie, à ma difficulté, à mon épreuve, que je vis peut-être pour certains depuis tant de temps déjà, deviens le roi de ma vie. Guéris-moi, touche-moi, agis miraculeusement, ou montre-moi ce que tu veux me dire au travers de cela, mais manifeste ta gloire comme un roi dans ma propre vie.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.